playground and I was so convinced of it. The good chaos, now I want it back. And the good life that I thought you had. Now I'm hiding in my room because I hate to change, hate who I am. Fuck those men, the big strong shoulders. I just lean into my own for now. Just a word, and it's not just a song. It's not just my head, and it's not only fun. It is not just a man, and it's not just a life. It's not just a feeling, and it was never just a night. Honey, it's not just the weather, and it's not just the time. It is not always a joke.
Shoulders de Joe the Man, the music en écoute sur Radio Campus Bordeaux. Et restez avec nous puisque Café Campus c'est pas fini. Dans quelques instants, on va se plonger dans un autre festival, celui du film d'histoire qui s'est déroulé à Pessac. Il est question de documentaire, de fiction, etc. Tout en lien avec l'histoire. Et on va écouter une nouvelle interview dans ce Café Campus. Alors soyez patients, ça arrive. Mais tout de suite, on écoute Standing Ovation de Stella Donnelly.
I'm hungry for the food you make. Lemon on everything. We carry on like markup day. Looking at the pressure gauge to see where I end and you begin. Sorry for the
This is not America de Marcia. On écoute sur Radio Campus Bordeaux et tout de suite, on va se plonger dans un sujet culturel. Le vendredi 25 mai 1923, à 5h du matin, une automobile Cadillac de type 57 quitte l'hôtel parisien de Rennes. À son bord, Pierre Kemener et Guillaume Seznec. On ne reverra jamais le premier et le second, accusé du meurtre du premier, sera condamné aux travaux forcés à perpétuité. Si l'affaire policière est captivante en elle-même, sa longévité l'est encore davantage. Et en ce sens, l'affaire Seznec, autant juridique que médiatique, questionne largement notre époque. Pierre-François Lebrun, avec son documentaire Seznec, la fabrique de l'affaire, revient sur toute l'affaire avec un film très réussi. Radio Campus Bordeaux l'a rencontré dans le cadre du Festival du film d'histoire de Pessac. Interview.
Culture.
Pierre-François Lebrun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici au Festival du film d'histoire pour présenter votre film Seznec, la fabrique de l'affaire. Alors déjà, Seznec, ça s'écrit comment? Parce que quand on regarde votre film, on se rend compte que dans les coupures presse de l'époque et même après, ou même sur un enregistrement de cassette audio,
ouais,
c'est
vrai,
jamais écrit pareil.
Ouais, c'est vrai, vous avez remarqué ça. C'est
alors, il y a un E quelque part,
non,
il n'y en a pas.
Non, c'est écrit, j'ai un trou.
S-E-Z-N-E-C.
S-E-Z-N-E-C, oui. Mais c'est vrai qu'au début, dans les premiers articles où son nom apparaît, c'est assez aléatoire, effectivement.
Et pareil, après, pour un autre personnage qui s'appelle Le R, parfois, il y a H-E-2-R. Et parfois, H-E-R.
Je crois que c'est H-E-2-R.
C'est fou, ces journalistes. Alors.
Ouais. Après, c'est les Bretons, ils ont des noms bizarres.
Ah oui, c'est peut-être pour ça. On est en 2025.
Ouais.
Et on parle encore de l'affaire Seznec.
En parle un petit peu moins qu'il y a une dizaine d'années. Moi, j'en parle encore. J'espère, c'est pas à moi de décider, mais ça se tasse un petit peu quand même, parce qu'il y a quand même un effet de génération. Et puis, il fait moins la une des journaux. La dernière révision qui a mis un point final en 2006 a un peu mis un point final à l'affaire. Et en tout cas, même s'il y a encore quelques rebondissements de temps en temps, et puis quand on suit les réseaux sociaux, il y a encore quelques personnes qui sont passionnées par cette affaire. Mais c'est vrai que, on va dire, dans la jeune génération, c'est un peu moins présent.
Pourquoi elle a fasciné autant cette affaire, selon vous ?
Déjà, il y a une clé de base de cette histoire, c'est qu'il n'y a pas on n'a jamais retrouvé de cadavre de Pierre Quémeneur. Donc évidemment, ça laisse un vide. Moi, je dis que c'est une affaire pleine de trous. On ne sait pas où le meurtre a eu lieu, s'il a eu lieu, s'il y a une victime. Et donc, quand il y a des trous, évidemment, l'imagination s'engouffre dans ces trous. Et du coup, de génération en génération, on peut alimenter le moulin tant qu'on veut.
Il y a à peu près tout dans cette histoire. Il y a à boire, à manger, il y a un petit peu de tout. Mais il y a aussi des personnages, des véritables personnages de romans ou des personnages de films.
Tout à fait.
Par exemple, ce juge Victor Hervé qui... on pourrait faire un film sur lui, non ?
Tout à fait, il est formidable. J'ai eu du mal à trouver qu'il n'y a pas beaucoup de photos de lui. Il y a quand même il a été filmé alors plutôt à la fin de sa carrière après-guerre, dans les années 50. Pour résumer, c'est ce que j'en sais, c'est un juge qui était juge de paix au début dans une petite commune du nord de la Bretagne, du côté de Tréguier. Et puis après, alors qui était quand même déjà, pendant la guerre 14, il avait déjà fait un peu parler de lui parce qu'il était déjà un petit peu complotiste et paranoïaque. Il surveillait les côtes à la recherche de sous-marins allemands. Il a été surpris en train de se déguiser. Il est devenu juge d'instruction et on l'a surpris en train de se déguiser pour mener des enquêtes, alors que c'était, en tant que juge d'instruction, c'était pas son rôle, c'était plutôt à la police de le faire, à dépasser les limites de la circonscription dont il était responsable. Bon, c'est un personnage assez. Alors, il a fini, du coup, après tous ces agissements, par être interné dans un hôpital psychiatrique près de Rennes pendant quelques mois, et il n'a pas été viré de la justice. C'est lui qui a démissionné par fierté, parce que aussi politiquement, c'était pas quelqu'un qui était tout à fait républicain. Je pense qu'il était plutôt du côté enfin, c'est une époque où il y a encore la République n'est pas encore très sûre entre deux guerres, en tout cas, est assez menacée par des discours nationalistes. Et lui, il est plutôt de ce côté-là, donc à un moment, il ne peut plus collaborer avec l'État républicain. Oui.
Qu'est-ce qui reste de l'image de Seznec, selon vous, dans l'inconscient collectif ?
Dans l'inconscient collectif, je pense qu'il reste les images qui ont été filmées du vieux monsieur qui rentre de 20 ans de bagne, qui a plus de 60 ans. Il y a passé, parce qu'à l'époque des faits de son procès, il a déjà plus de 40 ans. Et le fait... qu'il ait résisté, qu'il ait tenu au séjour à Cayenne, évidemment, on ne peut que, quand on voit les images, que avoir de l'empathie pour ce vieillard qui a quand même résisté à des conditions de vie difficiles, même s'il n'est pas, c'est pas Dreyfus, il n'est pas sur l'île du diable, enfermé et entravé. au bagne, comme c'est une sorte de VIP d'époque, il y en avait déjà dans les prisons. il est plutôt bien traité parce qu'il est connu quand même médiatiquement et la justice n'a pas du tout envie qu'il s'évade, mais n'a pas non plus envie qu'il tombe malade ou qu'il décède de fait de mauvais traitements. Mais c'est l'image du grand-père. En plus, il est grand-père, il revient. Et donc, ça fonctionne très, très bien.
C'est aussi une affaire de famille, l'affaire Seznek.
Moi, je crois, alors, quand vous posiez la question tout à l'heure de la persistance de cette histoire, je pense qu'il y a le mystère, il y a ce trou, cette absence de cadavre, etc., qui est sans cesse renouvelé. Mais il y a aussi que tout au long de cette affaire, la famille a pris le relais, on va dire. Dès que Seznek est condamné, sa femme va lancer un combat pour l'innocenter, pour la révision de son procès. Ensuite, sa femme meurt assez jeune. Ça va être sa jeune fille qui a à peine une vingtaine d'années qui va être au début un peu instrumentalisée pour monter sur scène et défendre son père. Et puis après, une génération suivante, c'est le petit-fils, alors plutôt là, on est déjà dans les années 70, qui va, Denis Seznek, qui va prendre le relais pour la dernière phase de cette aventure.
Qui s'appelle pas Seznek, si, c'est ça?
Ah non, il s'appelle Leher, puisque évidemment, alors c'est une histoire un peu compliquée, on a dans un film de 52 minutes, on peut pas tout mettre, mais enfin, on le dit quand même que, en fait, Leher, c'est un témoin, c'est le seul témoin qui pourrait faire vaciller le procès au moment du procès de Seznek, parce qu'il affirme, c'est un receveur de tramway à parisien, enfin d'origine bretonne, mais il est à Paris, et il affirme avoir vu Seznek le lendemain de sa disparition. Kemener, excusez-moi. Oui, c'est moi. Même moi je m'embrouille. Kemener au lendemain de sa disparition. Et c'est quand même un témoin douteux, parce qu'il a déjà quelques mal à partir avec la justice. Mais du coup, il va rencontrer, suite à toutes les campagnes pour l'innocence de Seznek qui vont avoir lieu dans les années 30, c'est là qu'il va rencontrer la jeune, sur scène, on va dire, dans les coulisses, la jeune fille de Seznek, Jeanne. Et c'est comme ça qu'ils vont finir par se marier ensemble et avoir des enfants. Mmh. Et qui seront. Donc, Denis Seznek s'appelle Leher, du nom de son père.
Ouais. Et c'est un film aussi sur le rôle de la presse.
Surtout. Parce qu'il y a de quoi dire. Entre le mystère, la famille et les... S'il y avait eu que ça, c'est pas ça qui aurait fait durer l'affaire. Évidemment, il faut des relais. Et c'est aussi une époque, mon film, j'essaie de raconter aussi que le XXe siècle, dans lequel s'inscrit l'affaire, c'est aussi une histoire de la progression, une histoire de la presse. C'est-à-dire, c'est au moment du procès, c'est les premiers chroniqueurs judiciaires. C'est un moment où la presse est énorme. Il y a je ne sais pas combien de titres, il y a plusieurs éditions, etc. Et les procès fleuves, on sort, c'est juste un an après Landru, l'affaire Seznek. Les plus grands tirages sont faits à cette occasion-là. Dans les années 30, la presse, elle va aussi servir de relais carrément d'opinion. C'est-à-dire qu'il y a un directeur de journal, Rennais, journal qu'on peut aujourd'hui qualifier de torchon, parce que quand on regarde, c'est un journal antisémite, très très réactionnaire. Et en plus, quand on se plonge dans les archives de cette époque-là, puisqu'en parallèle, on a la montée du nazisme en Allemagne, c'est un journal qui porte un regard pas tout à fait plutôt positif sur ce qui se passe en Allemagne. Et lui qui va prendre le relais aussi pour des préoccupations de déstabiliser la République, va se servir de l'affaire Seznek en disant la justice est pourrie, pour résumer, et va s'en servir. Et puis après-guerre, au retour de Seznek du bagne, c'est plutôt la naissance de la presse à sensation, on va dire. C'est des titres comme Paris Match qui apparaissent, La Couleur, la photographie, les photos pleines pages, France Soir, qui va être dès 40, alors le retour de Seznek c'est 47, mais qui même à la fin des années 70, quand Denis Seznek reprend le relais, c'est encore France Soir qui le met en couverture, en premier. Et puis c'est Europe 1, par exemple, c'est aussi pour la période finale, enfin contemporaine, on va dire. C'est une sorte de où le journalisme évolue dans quelque chose d'un peu plus entre l'entertainment, avec un personnage comme Pierre Belmar, dont on pourrait difficilement dire qu'il est tout à fait journaliste.
On l'entend, Belmar, dans votre film.
Ouais, beaucoup animateurs surtout. Enfin, notre génération, on a tous un peu les souvenirs de ces histoires extraordinaires, de ces histoires de justice. Mais quand on écoute tout, là, ce qu'il faut, l'extrait qu'on passe là de Repin, c'est quand même une émission qui va durer, qui va être trois quarts d'heure, je crois, à 13h30 pendant 15 jours. Ça va durer l'enquête sur Seznec avec une antenne ouverte à un appel à témoignage. C'est quand même une utilisation des médias assez.
Est-ce qu'on peut dire que Denis Seznec et un petit peu cet emballement médiatique, c'est presque des façons de faire qu'on peut rapprocher presque de la propagande?
En tout cas, c'est quelqu'un qui a compris. Qui peut utiliser les médias pour sa cause. C'est quelqu'un qui vient, il est correcteur, je crois, il travaille dans les journaux, donc il connaît, il n'est pas journaliste, mais il connaît le monde de la presse, il travaille dedans comme correcteur. Je crois qu'à un moment, il a même travaillé au Canard Enchaîné. Et puis après, il travaille professionnellement à l'Assemblée nationale, il est rédacteur, je ne sais plus quoi, donc c'est un boulot qu'il fait beaucoup la nuit. Et évidemment, quand on travaille à l'Assemblée nationale, dans les couloirs, qui est-ce qu'on croise ? Des hommes politiques et des journalistes. Donc évidemment, il se sert de cette position, enfin il l'utilise pour diffuser des dossiers, des textes concernant l'innocence de son... Donc c'est quelqu'un qui a... Est-ce que c'est de la propagande ? Je sais, c'est plutôt de la manipulation, de l'utilisation à sa cause de la presse. Après, moi, je juge pas ce comportement dans la mesure où c'est quand même son grand-père, il l'a connu. Enfin, mon jugement plus négatif, il est plus sur les journalistes eux-mêmes qui acceptent de se faire manipuler et très consciemment et pour des raisons plus de tirage qu'autre chose.
Alors, on a parlé des médias, de la famille, mais il y a aussi la justice. C'est aussi un film sur la justice. D'ailleurs, on voit au début de votre film, vous montrez, enfin, on voit les jurés, etc. Ils sont 12, c'est ça ? Et c'est que des hommes.
Ah, à l'époque,
c'était que des hommes.
Bah, je pense que c'était lié au droit de vote, de toute façon. Ouais. Je pense qu'il fallait être inscrit sur les listes électorales.
Pour pouvoir être juré.
Et c'était aussi, alors peut-être pas des notables... Parce que là, c'est des. Parce qu'on a dit, il y a eu une période où on a dit, par exemple, que Seznec avait été sacrifié par la République parisienne, alors que comme c'est au tribunal de Quimper, c'est tous des Finistériens, les jurés. Par contre, c'est des gens, ils sont choisis quand même, ils sont lettrés, ils savent lire, ils savent écrire. Donc, je ne sais plus comment ça se passe exactement les sélections, mais on va dire c'est une petite moyenne bourgeoisie. Sans être des notables.
Ouais, et puis certains d'entre eux sont revenus un peu sur leur décision.
Ouais. Ça, c'est une histoire complètement dingue, qui aujourd'hui, qui légalement déjà est quand même très très limite. C'est-à-dire qu'on, dans les 10 ans à peu près après le procès, le juge Hervé retrouve, je ne sais pas par quel, les adresses des jurés, les contacte, leur écrit. Et il les contacte pas, il les convoque. Avec son titre de juge d'instruction, alors qu'il est déjà parti ne fait plus partie de la justice, sous prétexte de leur exposer de nouvelles thèses, et il va leur faire signer. Il est réuni à la Maison du Peuple de Brest. Alors il y en a 5 qui vont répondre, qui vont venir, et puis il y en a un 6e qui va se passer après par correspondance. Enfin, globalement, il y a à peu près la moitié des jurés qui, après avoir écouté les démonstrations un peu farfelues, mais je pense que ça devait être le juge Hervé, on en parlait. Ça devait être un personnage hyper convaincant. Bon, visiblement, les gens qui l'ont connu, il avait une faconde, un personnage qui savait se faire entendre. Et donc, il y a effectivement 5 jurés qui ont écrit, enfin signé une lettre en disant qu'il s'était trompé et demandant, au moment du procès de 1924, et demandant à la justice de revenir sur sa décision. Ce qui est quand même légalement d'aller chercher des jurés, théoriquement, il y a un secret d'instruction, du procès, et je pense que légalement c'est un peu compliqué.
Dans le combat de Denis Seznec pour faire réhabiliter son grand-père, il a usé de tout ce qu'il a pu user. Mmh. Il a réussi, je pense, moi, d'après ce que vous montrez dans le film, à retourner l'opinion, en fait.
Oui.
Voilà. Mais est-ce que la la justice, justement, c'est la bonne manière de faire quand il y a une décision de justice qui doit être prise, etc. Parce que lui, il était persuadé qu'il allait être habilité, son grand-père. Et non, parce que la justice, elle, doit, n'est pas à l'écoute. On le voit dans l'affaire Sarkozy.
Tout à fait. Il était persuadé que l'opinion publique allait, la pression de l'opinion publique, et puis du politique, parce que du coup, quand l'opinion publique se mobilise ou est convaincue de quelque chose, souvent les hommes politiques, et là, dans l'affaire Seznec, c'est clair, sont un peu à la suite, sont obligés de valider, sans se plonger évidemment dans les dossiers, sans rien vérifier. Quand on vous fait, mais moi je pense que je juge pas ça, parce que on me ferait signer une pétition contre une erreur judiciaire. Évidemment, je ne vais pas aller relire tout le dossier qui fait un mètre de haut. Et donc, je fais confiance. Vous n'allez pas dire non. Non, je signe pas pour la libération ou pour le fait que Seznec soit innocent. C'est impossible. Mais du coup, tout le monde est un peu dans un emballement. Alors, sauf la justice qui, elle, alors moi je suis pas un défenseur acharné, je pense qu'il y a aussi des travers, mais qui, elle, là, s'est gardé son sang-froid, on va dire. Et puis ce qui m'a étonné, moi je pensais que la justice, elle ne répondait jamais, pas aux attaques, mais à toutes les demandes de révision, à tous les meetings. En fait, quand on regarde le dossier, parce que dans le dossier Seznec, il y a la partie jusqu'au procès, et puis après, il y a tout ce qui va se faire, tout ce qui s'est fait de 1924 jusqu'à aujourd'hui. Alors là, on peut, comme c'est les 50 dernières années, on a accès pour l'instant jusqu'aux années 50, mais on se rend compte que dès qu'il y a une réunion quelque part, eh ben, il y a un gars qui va aller voir un inspecteur qui assiste à la réunion et puis qui fait un compte-rendu au procureur, souvent quand c'est en Bretagne, et qui raconte, et donc la justice elle écoute ce qu'on dit. Et moi dans le film, il y a une personne qui est historienne de la justice qui intervient, mais qui était aussi greffière à l'époque au tribunal de Quimper, et donc qui était chargée à l'époque où Denis Seznec passait à la télévision, dès qu'il disait quelque chose, il faisait une affirmation en direct sur un plateau. Et ben le lendemain, elle avait un coup de téléphone, je sais plus, juge du tribunal de Quimper, qui lui disait Madame machin, est-ce que vous pourriez vérifier, il y a Denis Seznec qui a dit ça, et par souci de, au cas où. Donc par souci d'écoute, même si la justice peut pas aller sur le terrain de répondre immédiatement, et d'ailleurs c'est un peu ce qui énerve Bruno Cotte, le dernier président de la Cour de cassation, qui là accepte, parce que c'est 20 ans plus tard, de dire qu'il a quand même très très mal vécu le fait que les journalistes, personne se soit vraiment intéressé à ce qu'avait dit la justice pour expliquer le fait qu'il n'y aurait pas de révision et que tout le monde était parti dans l'émotion. Alors, à l'époque, lui, il ne pouvait pas aller sur les plateaux télé. Et les juges ne font pas ça. Aujourd'hui, ils le font un petit peu plus. On voit, quand il y a des affaires, que les procureurs interviennent plus. Mais à l'époque, c'était quand même... On laissait faire, on laissait dire, mais il en avait quand même un peu gros sur la patate.
Ça fait vraiment penser à la situation actuelle, hein. Quand il dit justement que les journalistes ne vont pas se renseigner, ne vont pas lire
les 40 pages,
le rapport, etc. Alors là, c'est 40 pages, dans d'autres affaires, c'est 400. Aujourd'hui, on est quand même dans la société de l'émotion, avant tout, et puis des réseaux sociaux, donc ça va très 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 vite.
Ouais, moi je m'étais interrogé, je pense qu'il y a quand même théoriquement des journalistes, alors il y en a moins d'ailleurs, les chroniqueurs judiciaires, en tout cas pour la télévision, en presse écrite, il y en a encore, mais des spécialistes de la justice, mais en tout cas, moi j'ai souvenir de, je sais plus son prénom, Lefebvre, qui passait dans les années, il y avait Frédéric Potcher avant, Lefebvre, et puis après il y a eu Dominique Verdeillant, enfin des gens comme ça, qui étaient quand même spécialistes, mais on se rend compte que peu à peu, ils ont un peu dit, le temps qu'on leur donnait était un peu réduit. Et c'est un peu, moi je fais un peu le parallèle avec les journalistes, avec la science, un peu la justice, avec les journalistes scientifiques, pareil. Maintenant, il suffit qu'un type, on l'a vu avec le Covid, qu'un type avec une blouse blanche vous dise, fasse une démonstration. Le pauvre journaliste, s'il a pas les bases, ou s'il a pas le temps, surtout d'étudier un peu ce que lui dit le gars avec la blouse blanche, s'il ne fait que lui donner la parole et sans aucun regard critique, on en arrive à ce qu'on a vu avec un certain Marseillais. Pour la justice, c'est un peu pareil. S'il suffit que un avocat, et puis c'est le rôle de l'avocat évidemment de diffuser des informations sur l'innocence de clients, même si elles ne sont pas obligatoirement vraies. Et si le journaliste ne va pas se plonger et n'a pas le regard critique, et bien évidemment il ne fait que relayer, et donc un point de vue qui va pourtant construire l'opinion publique, mais qui ne sera pas obligatoirement vrai.
Est-ce que vous pensez que être accusé à tort, c'est la pire des injustices ?
Je pense. Moi, dans mon film, il y a un personnage pour la partie contemporaine, on va dire, c'est Denis Langlois qui a été l'avocat qui a repris le procès, qui a repris le dossier en 78-79, qui est quelqu'un de très estimable, qui est quelqu'un qui était l'avocat de la Ligue des droits de l'homme, qui était engagé dans des combats contre les dictatures au Portugal, les colonels en Grèce, qui est un militant vraiment des droits de l'homme, et lui, son discours, il tient toujours le discours du fait de la phrase de Victor Hugo, je crois, disant qu'il vaut mieux un coupable qui court dans les rues qu'un innocent en prison. Après, c'est une position morale évidemment tout à fait respectable. Après, quand on en discute avec des gens, le monde de la justice, des juges, on a vu pour l'affaire Jubilard, par exemple, si le doute, c'est toujours une vraie question. Là, c'est pareil, il n'y a pas de cadavre. Est-ce que quand même on peut condamner quelqu'un ? Du point de vue de Denis Langlois, non. Le doute doit, de toute façon, même si quand on lui pose la question sur la culpabilité de Seznec, il dit « je ne sais pas ». Mais il dit le fait de pouvoir dire « je ne sais pas, je doute », ça doit obligatoirement l'innocenter. D'autres personnes du monde de la justice disent que la justice ne peut pas fonctionner comme ça, parce qu'il suffirait de réussir le crime parfait pour pouvoir s'en sortir systématiquement.
Et vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous en pensez sur la culpabilité de Seznec ?
Bon, c'est pas le sujet de mon film, puisque oui, c'est justement Alors, je vais pas botter en touche, mais en tout cas, c'est le débat auquel j'essaie d'éviter quand on fait des projections, etc. Alors ici, c'était plutôt intéressant d'ailleurs, parce que je pense comme on est un peu loin de la Bretagne, et puis il y a beaucoup de gens, il y a l'école de la magistrature pas loin. Je pense qu'il y avait des gens dans la salle, il y avait certains magistrats, donc c'était assez apaisé. En Bretagne, souvent, ça en fait encore débat, et puis je casse une croyance sur l'innocence de Seznec qui est parfois presque du domaine du religieux, des choses comme ça. Moi, pour avoir vu le dossier, alors j'ai pas tout lu, les 150 pages, les 1m50, les 10 tomes du dossier aux archives de Quimper. Quand on voit vraiment les papiers, c'est très émouvant, les photos sont encore là, il y a même un échantillon du tissu, du costume qu'avait Kemener quand il a disparu, que les flics avaient été voir chercher chez un tailleur. Et comme il est entre deux papiers, il est comme s'il était sorti du tailleur hier. C'est très très émouvant. Et quand on voit les pièces, en particulier les fameuses fausses promesses de vente que Seznec a sûrement, parce que là il y a eu 50 experts jusqu'aux années 2000, sûrement fabriquées lui-même, alors faisant croire que il n'est pas très fin non plus, parce que la qualité de ses promesses de vente, on peut pas imaginer que ce soit un notaire ou un clerc de notaire qui ait pu faire ça. Il y a des fautes de frappe, il y a des corrections au papier, c'est un peu dégueulasse, enfin bon bref, c'est quand on voit ça, là on se dit il n'y a pas photo. Après il y a des gens qui disent que ça a été fait par la police, après on peut toujours, quand on est dans la théorie du complot, et après, je suis plutôt, je pense qu'il est coupable, ça c'est clair, en tout cas qu'il y a 99,9%, et puis que au bout de 100 ans, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont escrimés. Il y a eu d'autres enquêtes. Il y a eu un commissaire dans les années 50 qui s'est tapé de tout revérifier, etc. Il y avait encore plein de témoins vivants. On se dit c'est pas possible. Quand on voit le fric que ça a coûté, le temps de mobilisation pour quelque chose que j'estime quand même un fait divers, peut-être pas banal, mais un peu crapuleux, d'un type qui est un peu jaloux de son copain, avec qui il fait des affaires, qui réussit un peu mieux, et puis qui veut s'accaparer son bien. Et voilà, c'est un peu ça l'affaire Seznec au départ. Et c'est quand même assez hallucinant que 100 ans plus tard, c'est le nombre de bouquins, tout ce qui a été fait. Après, c'est le sujet de mon film, donc c'est assez magique.
Mais ce qui est bien fait dans votre film, c'est qu'à la toute fin de votre film, on voit la famille Kemener.
Oui.
Alors qu'on n'y pensait plus, puisque la victime désignée populaire, c'est Seznec. Mais tout non, fait. En fait, il y a une victime dans cette histoire, une vraie victime.
Oui, oui, alors c'était, moi je trouve ça touchant. J'ai eu du... C'était un peu compliqué de les... encore aujourd'hui, de les amener à témoigner. Alors c'est une famille très marrante, parce que c'est une famille du nord de la Bretagne. Pierre Kemener avait surtout, Pierre Kemener, il n'a pas eu d'enfant, il était célibataire. Donc pour mener le combat, ça n'a été que des neveux ou ses frères et sœurs qui ont mené le combat à partir des années 30, qui auraient pu en tout cas faire face à la presse. Ils l'ont fait, ils ont attaqué dans les années 30 quand le fameux journal antisémite fait sa campagne pour l'innocence des Seznec. Et avec la théorie que c'est quand même ce serait le frère de Kemener qui l'aurait tué, Louis. Là, ils attaquent et ils gagnent. Ils gagnent, je ne sais plus combien, mais il y a un gros procès en diffamation au tribunal de Brest. Puis à Rennes, le journal est condamné. Il y a des publications qui sont interdites. Enfin bref. Mais après-guerre, c'est une famille. Il y a une sorte de patriarche à l'époque qui est donc qui doit être un neveu de Kemener et qui décide. C'est une sorte de, on va dire, pour résumer, des chrétiens de gauche. Et on est en Bretagne, on est dans le Trégor, et ils décident. On a confiance à la ligne de conduite, c'est on a confiance en la justice. On ne rentre pas dans le débat médiatique. Et du coup, je ne sais plus son nom, ce monsieur, il va vivre jusqu'en dans les années 70. Les arrière-petits-neveux de Kemener que j'ai rencontrés, eux, quand ils avaient 10-20 ans, c'était à l'époque où on voyait encore, où Denis Seznec arrive à la télévision, où ils allument leur poste, ils tombent sur une émission de Chavannes avec. Ils le vivaient très mal, c'est clair, mais.
On la voit, il y a un extrait de cette émission dans le film.
Mais là, il l'avait un peu. Bon, on peut imaginer. Parce qu'il y a quand même une ou deux années, autour des deux révisions, celle de 96. Enfin, moi, j'ai un peu ce souvenir-là, mais à l'époque, je ne m'intéressais pas à l'affaire. Mais on a tous le souvenir, en tout cas, d'avoir croisé la figure de Denis Seznec, qui était au-delà du cas de l'affaire Seznec, qui était maintenant le gars qui. Quand il y avait une émission sur C'est à vous, ou je ne sais plus quoi, sur les erreurs judiciaires, on invitait systématiquement.
Il était devenu le spécialiste.
Exactement. Puis il avait monté une association qui s'appelait France Justice, et donc avec tout un bien organisé, et donc c'était le représentant de l'erreur judiciaire. Je pense que quand les journalistes cherchaient quelqu'un. Et donc là, les Kemener, ils se tapaient ça à la télé. Mais il y avait ce côté, on a confiance à la justice. Et même au moment au moment de la dernière révision, ils se disent, parce qu'il y a une tante, c'est ce qu'il raconte, qui a connu, je sais pas, qui était toute gamine au moment de cette affaire, et qui dit, c'est pas possible, là, il faut qu'on dise quelque chose au moment d'arrivée. Parce qu'il voit là aussi la puissance médiatique de Denis Seznec. Alors même s'ils veulent pas aller sur les plateaux télé, ce que les journalistes auraient beaucoup aimé, je pense, mais ils choisissent juste de faire un courrier qui est très long, qui est très circonstancié. Il se trouve qu'il y en a, la personne, un des deux, qui est Olivier Talabardon, qui apparaît dans mon film, et a fait des études, alors je sais pas si c'est lié, mais en tout cas il est magistrat, donc il connaît aussi, il sait comment rédiger une lettre à un juge et puis présenter des arguments. Mais en fait, dans la lettre, elle est très bien écrite. Il rappelle juste les faits. Il rappelle qu'effectivement, c'est quand même la victime, c'est Pierre Kemener. Il rappelle tout ce qu'a un peu subi leur famille depuis les années 20. Et globalement, ils remettent l'église au milieu du village. Et ils auraient pu. Et d'ailleurs, Bruno Cotte, moi je ne l'ai pas dit on ne le met pas dans le documentaire, parce que c'était, on sait, un sac en deux minutes, il faut faire deux choix, mais Bruno Cotte a regretté qu'ils auraient pu se faire représenter par un avocat, c'est-à-dire que le débat Denis Seznec était représenté par Jean-Denis Bredin, qui n'était pas et un autre avocat dont j'ai oublié le nom, mais qui était deux pointures du barreau, Et la famille Kemener aurait pu très bien, et c'est pas une question de sous, parce que je pense que n'importe quel ténor du barreau aurait bien content d'aller rentrer dans ce combat, et il y aurait pu vraiment y avoir un débat équilibré, on va dire. Et ils auraient pu, mais ils ont fait le choix de, ils se sont posé la question, et ils ont fait le choix de pas le faire parce que ils voulaient pas rentrer sur ce terrain médiatique, parce que c'était obligatoirement prendre un avocat, rentrer dans ce combat-là, c'était. Donc ils ont fait juste une lettre, toute simple, mais qui il y a eu donc que tous les 33 membres de la Cour de cassation, enfin de la Cour de révision ont eu. Donc je pense qu'a eu quand même son effet. Mais après, ils ont été terriblement ignorés par les journalistes. Ouais. Ils le disent, ils étaient pourtant sur le banc à côté.
Ils sont bons, les journalistes.
Ouais, bah, ils sont pas tout à fait curieux. Après, moi, je peux le dire aujourd'hui, il est pas très content, mais j'ai interviewé Dominique Verdeillan pour ce film, qui était le journaliste judiciaire de France Télévisions, de France 2 à l'époque. Donc, on voit dans beaucoup de ces moments-là, en tant que lui chroniqueur, hein, pas du tout comme de Chavannes et des choses comme ça, au journal télévisé. Moi, je l'ai un peu titillé là-dessus en disant mais quand on voit les images d'archives là, on voit que quand il arrive au tribunal, Denis Seznec, il arrive en voiture dans le parking souterrain, là il l'a cité, il est carrément avec une équipe de télé qui le suit de France 2. On se dit que le recul est quand même un petit peu limite. Après, bon, bah, c'est des choix. C'est vrai que c'était. Après, c'est compliqué. C'était une histoire un peu compliquée d'aller contre le vent. Et puis, il y avait aussi les politiques qui s'y sont mis. Hein. S'il n'y avait pas eu Marie-Lise Lebranchu, il n'y aurait pas eu cette révision. C'était terminé dès 96, avec la mort de Jeanne Seznec, puisque à l'époque, ça ne pouvait être que les enfants directs qui pouvaient demander la révision pour leurs parents. Maintenant, ça a évolué. Hein. Après, maintenant, à la limite, si vous voulez, Denis Seznec pourrait, et même s'il avait des enfants ou s'il y avait des... parce qu'il y a d'autres frères et sœurs, il pourrait demander la révision. Mais bon, je pense que là, c'est un peu terminé.
Ok. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Campus Bordeaux 88.1.
Et un grand merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute, car Café Campus, c'est déjà terminé. Alors, on espère que le programme vous a plu et on se donne rendez-vous à 17h tapante pour Passage. C'est votre magazine culturel avec des chroniques et des interviews. Vous connaissez la chanson. Allez, passez une agréable après-midi et nous, on se dit à tout à l'heure. Ciao.
I cannot read a full
désert de béton bleu, bien médiéval, comme dans un palais de cristal. Là où tournait toujours, toujours, comme un cheval, l'énorme moteur sourd infernal. Je vivais là, le jour, la nuit, dans la centrale, j'étais l'épouvantail, mort sur la paille. Moi j'ai préféré le goût de la paille. Là où tourne, tourne toujours, comme un cheval, le grand moteur sourd de la centrale. Je t'attends là, le jour, la nuit, dans la centrale, je suis l'épouvantail, mort sur la paille.
Campus Burdeos
88.1.
Campus Bordeaux
88.1.
Ah bon?
Oh, à l'époque, je cherchais de l'or à New York. Les glaciers rendaient les corps. Alors, j'avais changé de décor. Ton visage sur les clichés que j'envisage de brûler. Et après, peut-être j'oublierai. Demande à
John's raid with Ron and Dave, and met a new wave blind babe with half of her head shaved. A nurse aide who came to get laid and tied up with first aid tape and air on the first date. Susan, an ex-friend when Natick who just stopped Zuiden, who loved booze and alternative music, told me she was going back in the Zuiden again. I said, wait, first try to pull a boost in the gin. It's better than wearing and hand the booze in the gin. Come here, let's go in here. Who's in the tent?
It's me and Kelly.
My bad, let's try another room.
Trust you.
Shut up. Now let's screw up this month. This will help you get in touch with your roots. We'll get barefoot, butt naked, and run in the woods.
Oh, hell. I might as well try them. This party is so drag.
Oh, dang. I ain't mean for you to eat the whole bag.
Huh?
I never meant to give you my smooch, girl. I never meant to bring you to my world. But now you're sitting in the corner crying. And now it's my fault, my fault.
I'm sorry.
I never meant to give you my smooch, girl. I never meant to bring you.
Get away from me, I don't know you.
Oh shoot, she's tripping.
I need to go puke.
I wasn't trying to turn this into something major. I just wanted to make you appreciate nature. Susan, stop crying, I don't hate ya. The world's not against you, I'm sorry your father hears ya. So what you had to look at you in your dad's mouth? That ain't no reason to start wigging and spaz out. She said,
help me, I think I'm having a seizure.
I said, I'm who's y'all? Quit grabbing my t-shirt.
Let go.
Would you calm down, you're starting to scare me. She said,
I'm 26 years old.
I'm over here, so you're talking to the plant. Look, we need to get to a hospital before it's too late. Cause I never seen anyone eat as many smooches as you ate. I never meant to give you my smooch, girl.
Whoops.
I never meant to bring you to my world. But now you're sitting in the corner crying. And now it's my fault, my fault.
It's an accident.
I never meant to give you my smooch, girl. I never meant to bring you to my world. But now you're sitting in the corner crying. And now it's my fault, my fault.
Susan,
wait. Where you going? You better be. Not your dad. We're trying to swallow your tongue. Want some gum? Put down the scissors before you do something dumb. I'll be right back. Just chill, baby, please. I gotta go find Dave. He's the one who gave me these. John, where's Dave at before I bash you?
He's in the bathroom. I think he's taking a crap, dude.
Dave, pull up your pants. We need an ambulance. There's a girl upstairs talking to plants, chopping her hair off. And it's only 2 days left of spring break. How long do these things take to wear off?
Well, it depends on how many you had.
I took three. She ate the other 22 packs. Now she's upstairs crying out her eyeballs, drinking Lysol.
She's gonna die, dude.
I know, and it's my fault.
My God.
I never meant to give you my smooch, girl. I never meant to bring you to my world.
Sorry.
But now you're sitting in the corner crying. And now it's my fault, my fault.
What do I do?
I never meant to give you my smooch, girl. I never meant to bring you to my world.
Most of y'all sharing bars like you got to buy the bunk in a two-man sale.
the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. King Kunta, you got the yams. The yam brother that a Richard Pryor.
Parce que j'aime autant vous dire que pour moi, monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manche en simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Et encore, les rois, ils arrivent à l'heure. Parce que j'en ai connu, moi, mon cher maître des rois. Et puis pas des petits. Des Hanovres, des Hohenzollern. Rien que des michetons garantis croisades. Et vous me voyez là maintenant, mais moi j'ai pas toujours tenu un clandé. Hein. Vous avez pas connu la rue du Chalabet. 60 chambres, et ils ont filé tout ça aux petites sœurs des pauvres, quand j'y pense, tiens. Alors c'est pour vous dire que votre ami Eric, ses grands airs, il peut se les cloquer dans le babat.